Les douleurs de l'enfantement, deuxième partie. Alors, je rappelle les versets sur lesquels j'ai basé cette étude. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Apocalypse 12, 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Luc 21, 29, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, la prophétie des versets 29-31, où Jésus reprend l'image du figuier, dépeint le réveil national d'Israël. Dans ce passage, il ajoute la mention « et tous les arbres », allusion indéniable à un phénomène contemporain coïncidant avec la restauration d'Israël et celui concomitant du réveil du nationalisme chez de nombreux peuples. On avait vu ça, du moins comment les choses se mettaient en place progressivement avant les guerres mondiales. On a vu que c'est un processus qui s'est petit à petit formé, petit à petit a trouvé sa maturité. Ça a commencé avec la Révolution, ça s'est poursuivi. Du XXe siècle, il y a eu une accélération, il y a eu une dynamique nouvelle qui s'est mise en place dans les douleurs de l'enfantement, dans les contractions, dans les choses qui font mal. On peut dire que le XXe siècle, c'était un siècle qui a connu les pires atrocités, les pires douleurs qu'on puisse imaginer avec la Première Guerre mondiale, puis la Seconde. Seconde Guerre mondiale qui a fini par aboutir à la création de l'État d'Israël. Mais le Seigneur nous dit dans Luc 21, qu'il faut voir le figuier, mais aussi tous les arbres. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment les choses se sont développées après la guerre mondiale. Et une des choses importantes, c'est que beaucoup d'arbres vont fleurir. Et ça, grâce à la fin des empires coloniaux. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les Européens, qui dominaient le monde, se partageaient des territoires immenses, comme l'Afrique par exemple, carrément tout un continent. Ce continent, à peu de choses près, était coupé en deux, l'Afrique occidentale et puis l'Afrique orientale, avec d'un côté les Anglais, puis de l'autre côté les Français. Donc, ces immenses territoires étaient le résultat de siècles d'exploration et de conquête et de domination. Et c'est cette période-là qui va s'achever après la Deuxième Guerre mondiale. Et on va voir comment les choses vont se développer. Cependant, au XXe siècle, cette domination devient de plus en plus difficile à maintenir. La guerre de 14-18 est à l'origine du premier ébranlement des empires coloniaux. Après 1918, les puissances coloniales ont éludé la question et répondu aux aspirations nationales par une répression accrue. L'Empire ottoman, qui a existé de 1299 à 1922, soit 623 ans, sera une des grandes victimes de la Première Guerre mondiale avec l'Empire austro-hongrois. La Deuxième Guerre mondiale va précipiter l'éclatement des territoires conquis. Là, on se rend compte que le temps des empires s'achève, et ce, après des siècles de domination. Et un des grands empires qui va exploser au XXe siècle, c'est l'Empire ottoman, avec les Turcs. Donc eux, ils possédaient un gigantesque territoire qui partait grosso modo de la Turquie et puis jusqu'au Maghreb, avec naturellement toute la partie qui aujourd'hui est Israël et tous les pays qui sont autour. Tout ça, c'était un ensemble, ça appartenait aux Ottomans. Après la Première Guerre mondiale, le soutien de l'Empire ottoman prussien va faire qu'une guerre va se déclencher et les Anglais vont attaquer les Ottomans et cet empire va voler en morceaux, va éclater, va être fractionné. Et des pays vont émerger de cet empire. On va avoir la Cisjordanie, la Transjordanie, on va avoir des nouvelles frontières qui vont être dessinées. Et là-dessus, le Seigneur va préparer le terrain, va commencer à travailler le sol afin d'y planter son figuier, Israël. Et on peut dire que cet empire qui explose, c'est vraiment quelque chose qui est très important. La Seconde Guerre mondiale a élargi les fissures dans les empires coloniaux. En Asie, le Japon a balayé l'impérialisme blanc et a présenté son occupation comme une revanche des peuples de couleur sur les blancs. Les grandes puissances coloniales européennes, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, ne sont sorties de la guerre du côté des vainqueurs que grâce aux États-Unis ou l'URSS. Et pourtant, pendant la guerre, le Royaume-Uni et la France ont multiplié les promesses pour gagner l'appui nécessaire des colonies. Pour rallier l'Afrique noire tout entière à la France libre, De Gaulle, dans son discours de Brazzaville en 1944, sans aller jusqu'à promettre l'indépendance, annonce une participation des colonies à la marche des affaires. À partir de 1945, les colonies réclament donc cette émancipation qu'on leur a laissé entrevoir. La Seconde Guerre mondiale va profondément changer la donne dans les mentalités et dans l'attitude des personnes qui vivent dans les colonies. Les peuples vont se rendre compte que désormais la liberté est à portée de bras. Liberté parce que les empires coloniaux, les pays de tutelle sont considérablement affaiblis pendant la guerre. Ils y ont laissé beaucoup d'hommes, beaucoup de biens, des sommes considérables, et sont plus en mesure maintenant d'entretenir des armées coloniales pour maintenir leur domination dans le monde. Et donc ces nations ont profité de ça. Et surtout, en Asie, par exemple, des pays comme le Japon ont montré que la domination des Blancs n'était pas quelque chose qui va durer ad vitam aeternam, que ce n'était pas une situation qui était pérenne, mais qu'on pouvait changer le cours des choses. Et ça va donner des idées par après aux peuples qui sont là-bas. Et après la guerre, un certain nombre de pays vont se révolter et n'accepteront plus d'être sous la domination d'un pays, notamment la France. Tout de suite après la guerre, il y a de nouveaux conflits qui vont démarrer avec, en Indochine, une guerre de libération, une guerre d'indépendance qui va durer pendant longtemps, qui va coûter énormément à la France pour aboutir finalement à de nouveaux pays, hein, le Laos, le Vietnam, et ces pays-là, eh bien, marcheront à partir de ce moment-là sur leur propre voie, avec leur propre destinée. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire dans la violence, qui va se faire dans la guerre, parce que la France résistera, voudra conserver ses territoires malgré les promesses qu'ils ont faites, et ces promesses, ils ne les tiendront pas, mais parce que la démonstration a été faite que le blanc pouvait être vaincu, maintenant qu'ils ont compris qu'on pouvait résister, qu'on pouvait changer le cours des choses, eh bien, une porte a été ouverte et plus personne ne pourra la fermer. Et en Asie, bah particulièrement, les choses vont évoluer. Ça, c'est pour les colonies françaises, ça va se faire dans la lutte, ça va se faire dans la guerre. Mais en Inde, par exemple, ça va se faire pacifiquement avec la marche de Gandhi, où c'est une toute autre démarche qui est entreprise, mais qui finalement va aussi aboutir à l'indépendance de l'Inde. On poursuit dans l'histoire. La charte de l'Atlantique de 1941, où Roosevelt et Churchill jettent les bases d'un nouvel ordre mondial, rappelle le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce principe est repris dans la charte des Nations Unies en 1945, puis par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. L'ONU devient donc la tribune internationale du soutien à la décolonisation. L'opinion publique des métropoles elles-mêmes évolue très rapidement en faveur de la décolonisation. Si ce n'est un soutien à l'évolution des colonies vers l'indépendance, c'est au moins le désir de voir se terminer certaines guerres, comme celle d'Indochine ou d'Algérie, où beaucoup de familles risquent de voir leurs enfants tués au combat. Le Royaume-Uni, avec les travaillistes au pouvoir à partir de 1945, accepte plus facilement la transformation de certaines colonies en dominions dans le cadre du Commonwealth déjà créé. La France, avec sa vieille tradition centralisatrice, est très attachée à l'idée de la République indivisible. L'évolution vers l'émancipation des colonies est donc beaucoup plus difficile. En effet, les choses vont aller rapidement, mais pour les uns, ça va se faire dans le consensus, notamment avec les Anglais, mais pour les autres, ça va se faire dans la douleur. Et ça, c'est pour nous, les Français. On l'a vu, ça commence avec la guerre d'Indochine, qui va durer un petit moment, et à peine cette guerre s'achève, que dans la foulée, eh ben, ça continue avec l'Algérie. Donc, on peut dire de 1945 à 1960, la guerre sera le lot commun journalier de la France. Et tout ça parce qu'il résiste finalement à une volonté qui est la volonté divine. Si on s'était appuyé sur des hommes d'esprit, inspirés par le Saint-Esprit, et si ces gens-là étaient intervenus en France, et si ces gens-là, au nom du Seigneur, avaient prévenu les hommes politiques en disant « ce qui se passe aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu », ce que vous êtes en train de faire, c'est de résister à la volonté de Dieu. C'est son désir, c'est son plan, c'est lui qui a décrété que les choses seraient ainsi. Et si les hommes politiques avaient écouté, les choses auraient été totalement, complètement différentes. On aurait pu arriver à du consensus, on aurait pu arriver à faire en sorte que les choses se passent bien. Ben non. Comme on n'est pas sous la domination de l'Esprit de Dieu, comme on n'écoute pas la voix des serviteurs de l'Éternel, et qu'on suit ses propres voies, et je dirais même pire, qu'on est animé d'un esprit antéchrist, on va exactement à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc, ben, l'Éternel résiste et les choses se passent mal. Et là, on se retrouve dans une situation conflictuelle avec toutes les douleurs que ça engendre. Et la chose est tellement vraie que quand les Français, ils abandonnent le combat à Dien Bien Phu parce qu'ils ont été vaincus par les armées de libération, Pol Pot, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Américains, ils ont dit, nous, on ne veut pas que le communisme s'installe dans cette région. Les Français n'ont pas les moyens d'y arriver, parce que c'est maintenant une nation moyenne, c'est une petite nation. Nous, les Américains, qui avons vaincu les deux plus grandes nations engagées dans la Deuxième Guerre mondiale, nous allons y mettre les moyens, et nous ferons en sorte que le communisme ne s'installe pas dans ces régions-là. Et donc, ils ne voulaient pas que le Vietnam, la Corée, tous ces pays-là, basculent dans le giron du communisme, Cambodge. Et ils vont se lancer dans une course folle en avant à la suite des Français. Et il va leur arriver exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas contre une simple armée de libération révolutionnaire qu'ils se battent. C'est contre la volonté de l'Éternel. Autant que les États-Unis, ça peut être un terreau fertile pour les réveils religieux, pour l'éclosion d'un certain nombre d'églises, et tout ce qu'on connaît, mais dans ce cas de figure-là, ils étaient totalement et complètement à côté de la plaque. Là, il y a une immense part de responsabilité de la part des chrétiens aux États-Unis, mais il y a aussi un véritable coup de folie de la part des hommes politiques qui ont cru qu'ils pourraient résoudre par la force un problème qui finalement résulte de la seule volonté du Seigneur. Il viendra un temps où on verra le figuier fleurir et toutes sortes d'autres arbres. Il ne pourra rien faire contre ça. Donc quand Israël viendra, quand Israël paraîtra, Israël est paru tout de suite après la Seconde Guerre mondiale en 1948, à partir de là, tout un processus a commencé à se mettre en place. Et malheur à ceux qui, par la force, essayent de contraindre d'autres nations de rester sous leur domination. On se rend compte que ça ne marche plus. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il y a une véritable puissance libératrice qui fait que, quels que soient les moyens qu'on met en place pour arriver à dominer un pays, ça ne marche pas. Les Russes ont essayé, par exemple, en Afghanistan, c'était un échec. Les Américains, rebelote, remettent le couvert, ah ben, c'est de nouveau l'échec. Ils demandent de l'aide des autres nations, c'est toujours encore l'échec. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, une nation ne peut pas rentrer comme ça dans un autre pays, faire ce qu'elle veut, ça ne marche pas. Même la puissante Chine, avec son 1,5 milliard d'habitants, etc., etc., qui a mis le grappin sur le Tibet, et puis qui dit, bon ben voilà, c'est une affaire qui est réglée. Ben non, ce n'est pas une affaire qui est réglée, parce que c'est toujours encore une pierre pesante. Où qu'ils aillent, ben, systématiquement, on leur met ça sous le nez, et puis ça détériore les relations internationales. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans un pays comme ça, s'installer par la force et puis faire ce qu'on veut. C'est quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui, tout simplement, ne marche pas. Si on analyse un peu ce qui s'est passé, on peut prendre le Royaume-Uni à son apogée. Il était le premier empire colonial du monde. En 1922, il rassemblait un quart de la population mondiale, soit environ 458 millions d'habitants, et s'étendait sur des territoires couvrant 36 millions de kilomètres carrés. C'est presque un quart des terres émergées. On disait de l'empire britannique que c'est un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Vous imaginez un petit pays comme l'Angleterre qui règne sur un quart des terres du monde. C'est quand même incroyable. C'était le plus grand empire de tous les temps. Entre 1945 et 1965, le nombre de personnes assujetties à la couronne sans vivre au Royaume-Uni passe de 700 millions à 5 millions. En 20 ans. C'est quand même extraordinaire. Vous vous rendez compte que le plus grand empire de tous les temps se délite, se fractionne, disparaît littéralement, et ça en l'espace d'une vingtaine d'années. Donc, on s'en rend compte que là, il y a la puissance de Dieu qui est là et qui agit. Churchill et Roosevelt avaient prévu l'autonomie des colonies impériales par la charte de l'Atlantique en 1941. Mais Londres, après la guerre, freine le mouvement, considérant que les pays ne sont pas prêts à accéder à l'indépendance. Donc, tu parles. Quand ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils allaient perdre, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'empêcher, mais c'était trop tard, c'était plus possible, c'est inéluctable, il fallait que ça se passe comme ça. Les Français, eux, ça allait être beaucoup plus dur. L'empire colonial français est un empire qui a existé de 1546 à 1763, soit 217 ans. C'était la première vague coloniale. Il y en a eu une deuxième, qui commença en 1763 jusqu'en 1962, soit à peu près 200 ans. Le second espace colonial, constitué à partir des années 1830, se compose principalement des régions d'Afrique, acquises à partir des anciens comptoirs, mais aussi d'Asie, l'Indochine et d'Océanie, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Hébride. Ce second empire colonial était, de la seconde moitié du 19e siècle au 20e siècle, le deuxième plus vaste du monde derrière celui de l'empire colonial britannique. Cet empire fut présent sur tous les continents. À son apogée, en 1919 à 1939, il s'étendait sur presque 13 millions de kilomètres carrés, incluant la métropole française. Les terres sous souveraineté française atteignaient de 1920 à 1939 plus de 13 millions de kilomètres carrés, soit environ 8,6% des terres émergées. Il était contrôlé par les forces coloniales françaises. En 1945, la reconquête de l'Indochine par la France, puis l'échec des gouvernements vietnamiens et français à s'accorder sur un modus vivendi, conduisit en décembre 1946 à la première guerre d'Indochine. La bataille décisive eut lieu au printemps 54 avec la bataille de Dien Bien Phu. Après un siège de 55 jours, les Français capitulèrent le 7 mai 1954. L'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam était reconnue. À peine ça s'était terminé, commence la guerre d'Algérie qui se déroule de 1954 à 1962 et débouche sur l'indépendance de l'Algérie annexée à la France en 1834. Donc là, on se rend compte qu'avec la France, les choses sont plus violentes, parce que la machine administrative française, les habitudes françaises et la politique française est beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, que, je dirais presque sclérosée et conservatrice que celle des Anglais. Résultat des courses, eh bien, puisqu'ils ne veulent pas le faire de leur propre volonté, on va les y contraindre. Et c'est par la guerre que vont se dénouer les liens qui lie les colonies avec l'Empire français. On se rend compte avec, en l'espace d'un laps de temps extrêmement court, les deux gigantesques empires qui étaient présents sur tous les continents vont disparaître purement et simplement. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ça, ça se passe simultanément en même temps que naît et croît un tout petit état de rien du tout, qui est l'État d'Israël. Alors maintenant, s'occuper un peu du figuier, qui est quand même, pour nous les croyants, pour être plus important dans la prophétie. C'est pour nous un indicateur clé du temps dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, on observe Israël, et c'est un peu comme une horloge, ça nous indique l'heure qu'il est, ça nous indique le moment où s'inscrit le destin de ce pays dans les prophéties. À un moment donné, cet état a totalement, complètement disparu. Donc, il ne s'inscrivait pas dans les prophéties, il ne s'inscrivait pas dans le verbe divin. À partir du moment où ce pays existe de nouveau, eh ben, c'est quelque part de la volonté de Dieu, et c'est aussi la volonté créatrice, c'est l'expression du verbe divin qui prend une nouvelle dimension. Ce qui était promis, ce qui était annoncé, trouve son accomplissement. L'Éternel a dit, je les rassemblerai de toutes les nations et je les ramènerai. Et en un jour, je ferai naître une nation. Tout ça, c'était des promesses. Tout ça, c'est des choses qui étaient projetées dans le temps. Ça, c'est le verbe divin, hein, brusquement, avec l'état d'Israël, trouvé son accomplissement. C'est-à-dire le verbe divin qui a été prononcé un jour est devenu littéralement, comme ce fut au début des temps, parole créatrice. En un jour, je ferai un pays, et ce pays est venu en un jour. Les Nations Unies ont voté l'existence d'un nouvel État, et cet État, c'était l'État d'Israël, et c'était en 1948. À partir de ce moment-là, les choses se sont accomplies, les choses sont devenues réelles, les choses ont existé. Parce que l'Éternel l'a dit, et parce que c'était sa volonté. C'était par sa toute puissance, c'était parce qu'il a décrété que les choses seraient ainsi. Comme il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a dit que ce pays soit et ce pays fut. On va faire un peu d'histoire pour nous remémorer comment toutes ces choses furent possibles et surtout comment le Seigneur a agi pour que sa parole s'accomplisse. Le Seigneur a fait une prédiction, il y a eu une prophétie. On peut lire en Luc 21-24, où il disait ceci, « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Donc c'est un indicateur qui nous dit que quand Jérusalem ne sera plus foulée par les nations, alors le temps des nations sera accompli. C'est deux choses qui marchent ensemble. C'est un indicateur pour nous, c'est un enseignement pour nous, ça nous dit que il va y avoir une dynamique dans le monde, il va y avoir un temps pour les nations, mais que ce temps va trouver un jour sa fin, va trouver ses limites. Le Seigneur va dire maintenant stop, maintenant on arrête. Et le moment où ça s'arrête, c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem, qui nous dit quand ces choses-là se termineront. C'est quand les nations ne fouleront plus, n'auront plus autorité sur Jérusalem, ce jour-là, le temps des nations s'achèvera. Alors je vous rappelle qu'en 70 après Jésus-Christ, Jérusalem est détruite par les troupes du général romain Titus, futur empereur. Le peuple juif est dispersé. C'est la fin de la nation juive. À un moment donné, les nations qui étaient représentées par l'Empire romain ont agi pour effacer de la carte purement et simplement Israël. Ce pays n'existait plus. Le temple a été brûlé, la ville a été rasée, le pays a été gommé de la carte parce qu'on n'a même plus appelé Israël. Donc, c'était une fin, c'était terminé. C'était un acte qui venait de la part des nations, c'est aussi parce que le Seigneur l'a voulu. Alors, on peut dire que l'Empire romain agit comme la main de l'Éternel et ce pays a purement et simplement cessé d'exister. Mais, pourtant, le Seigneur a dit qu'un jour, Jérusalem ne sera plus foulée par les nations. Donc, il y a une projection qui s'est faite à quelque part dans le futur où le Seigneur faisait déjà implicitement la promesse qu'un jour, les Juifs reviendront de nouveau dans le pays et que Jérusalem leur sera restituée. Et ça, il faut le remettre dans le contexte de l'époque où, imaginez-vous un petit peu ceux qui ont vécu cette période-là, qui ont vu disparaître l'État d'Israël, qui ont vu disparaître cette nation, qui ont vu le temple brûler, qui ont vu le peuple dispersé, et qui ne pouvaient plus que s'accrocher à une chose, c'est ces paroles du Seigneur, qui a dit qu'un jour, le temps des nations s'achèverait, que la domination de Rome s'achèverait, que les armées étrangères ne fouleraient plus Jérusalem. Il fallait vraiment avoir la foi pour le croire. Et pourtant, en 1948, l'État d'Israël renaît. Jérusalem reste une source de conflit avec le monde arabe. Le conflit palestinien est au cœur de l'actualité depuis 30 ans. Le concept de Palestine fut créé par les Romains en 135 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Hadrien réprima cruellement la révolte des Juifs à Bar Kokhba. Bar Kokhba, c'était un leader qui se prenait pour le Messie et qui a entraîné les Juifs à se révolter contre les Romains. Bah, suite à cette révolte, bah, les Romains ils ont dit « Bon, bah, maintenant ça suffit, on va régler le problème une bonne fois pour toutes. » Et ils sont rentrés en guerre contre ce qui restait en Israël et ils ont massacré tout le monde, purement et simplement. L'empereur décida de faire disparaître la mémoire de la nation juive. Il appela Jérusalem du nom de Aelia Capitolina et rebaptisa la terre de Judée en lui donnant le nom de Palestine, qui vient de ses pires ennemis, les Philistins. Le nom palestinien est officiellement réapparu en 1964 lorsque le Haut Comité arabe pour la Palestine demanda à la Ligue arabe de faire naître l'OLP, Organisation pour la libération de la Palestine, dont l'esprit du monde arabe, la défense d'une Palestine arabe, permettait de légitimer une nouvelle guerre contre Israël. Lorsqu'en mai 1948, 7 armées arabes attaquèrent le nouvel État d'Israël, les Arabes vivant en Palestine sortirent du pays dans l'attente que la destruction des Juifs leur permette de revenir. Un réfugié palestinien résuma ainsi la situation. Le gouvernement arabe nous a dit « Partez pour que nous puissions rentrer ». Nous sommes donc partis, mais eux ne sont pas rentrés. Là, on se rend compte que les ennemis d'Israël, ce qu'ils auraient bien voulu, c'est perpétuer l'œuvre des Romains. Les Romains ont détruit le pays, ont effacé jusqu'à son nom et l'ont baptisé d'un nouveau nom en l'appelant la Palestine. De manière un peu ironique, je dirais même extrêmement arrogante et méchante, puisqu'ils ont choisi le nom des pires ennemis des Juifs, ceux qui ont en permanence combattu contre Israël. Et ils ont gommé le nom d'Israël et l'ont rebaptisé Palestine. Et c'est animé de ce même esprit que les Arabes, une fois que l'État d'Israël sera proclamé, eh bien, viendront pour recommencer de nouveau la même œuvre qu'ont faite les Romains, c'est-à-dire d'entrer en guerre contre Israël pour parvenir à les éliminer et rebaptiser ce pays du nom de Palestine. En fait, ce que le diable voulait faire, c'est purement et simplement rééditer l'œuvre des Romains. Je dis, puisque les Romains l'ont fait, eh bien, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Et alors, ils sont tous ligués ensemble. À peine l'État d'Israël a été proclamé, 7 pays arabes se liguent et entrent en conflit contre le jeune État d'Israël en se disant, eh bien, on va régler le problème, on va les détruire. Et ce faisant, ils se donnent les moyens, ils se donnent les moyens militaires, mais aussi les moyens politiques. Ils créent l'Organisation de la Libération de la Palestine, où ils disent, ben voilà, ça c'est les gens qui vont lutter maintenant contre Israël, et ça sera aussi les habitants de ce pays-là. Parce que ce pays, finalement, c'est pas un pays qui appartient à Israël, mais c'est un pays qui appartient aux Palestiniens. Et donc, ils se donnent les moyens militaires, mais ils se donnent aussi les moyens politiques pour y arriver. Alors, ils créent de toutes pièces, comme ça, un organisme, parce qu'ils se disent, il faut éradiquer jusqu'au nom même d'Israël. Seulement, ce qui s'est passé du temps des Romains, c'était de la volonté divine. C'était le Seigneur qui l'avait voulu, c'est le Seigneur qui voulait que les choses soient ainsi, parce que les Juifs se sont révoltés contre leur Messie, les Juifs se sont révoltés contre le Machiav, et le Seigneur dit, vous accumulez les péchés sur votre tête, et si vous continuez comme ça, la malédiction va vous atteindre. Et si vous persistez dans le mal, le sommet de la malédiction, c'est la dispersion parmi les nations. Les Juifs se sont inscrits dans une logique de destruction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi à la lettre le Deutéronome 28 jusqu'à son aboutissement, jusqu'à ce qu'ils disparaissent purement et simplement, qu'ils soient dispersés au sein des nations. Mais là, nous sommes maintenant, en 1948, dans une toute nouvelle logique. Là, ce n'est plus la logique de la malédiction, mais c'est la logique de la bénédiction. Le Seigneur a dit, il n'en sera pas toujours ainsi, je vous ramènerai, je vous pardonnerai vos péchés et vous reviendrez dans votre pays. Et là, vraiment, le diable, lui, n'entendait pas de cette manière. Et il s'est dit, parce que les Romains, ils ont fait, moi, je vais faire exactement la même chose. Ce moment-là, problème, c'est qu'il avait beau faire, il avait beau se donner les moyens, ça ne fonctionne pas parce qu'en face, il y a l'Éternel. En face, il y a le Seigneur. Cette fois-ci, les Juifs ne sont pas revenus parce que les hommes l'ont décidé, mais les Juifs sont revenus parce que c'était le temps pour ça, parce que c'est inscrit dans les promesses de l'Éternel, c'est la voix de l'Éternel qui l'a dit, c'est le Seigneur qui a prononcé ces paroles-là, et aujourd'hui, elles s'accomplissent. Le conflit palestinien est né de cet échec militaire des Arabes qui n'ont pu détruire Israël. Un dirigeant de l'OLP, Zuhair Moshen, a déclaré en 1977 « Il n'y a pas de peuple palestinien. La création d'un État palestinien est un moyen de poursuivre notre combat contre Israël pour une unité arabe. En réalité, il n'existe aucune différence entre Jordaniens et Palestiniens, Syriens et Libanais. Nous sommes tous du peuple arabe. Ce n'est que pour des raisons politiques et tactiques que nous parlons d'une identité palestinienne. Plus qu'évident, nous avons un esprit qui s'oppose à la volonté de l'Éternel. Le Seigneur a dit qu'il ferait renaître ce pays, qu'il le ferait refleurir et qu'il ramènerait ses enfants de nouveau dans le pays. Et donc, nous avons une puissance d'opposition qui va tout faire pour empêcher ça. Une puissance qui va essayer de s'interposer et de faire en sorte que la volonté de l'Éternel ne s'accomplisse pas. Et donc, le diable se donne les moyens, en utilisant le peuple arabe, en suscitant la haine et la querelle dans ces pays-là, en les poussant à entrer en guerre contre Israël, il espère refaire de nouveau la même chose que ce que les Romains ils ont fait. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et alors ils inventent des prétextes pour la guerre, ils inventent un peuple qui n'existe pas, en fait, mais qui est une illusion qu'on crée, une illusion politique. On dit, voilà, à partir de maintenant, il existe un peuple palestinien. Et si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette nation palestinienne, qui a été fabriquée de toutes pièces, on va trouver un petit nombre de gens qui habitaient en Israël, mais on va trouver des Syriens, on va trouver des Égyptiens, enfin, tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a dans le monde arabe, qui va se regrouper au sein de cette nouvelle organisation qu'on appelle l'OLP, qui n'a qu'un but politique, c'est de s'opposer à Israël. Et naturellement, le Seigneur va intervenir, le Seigneur fait en sorte que le plan du diable n'aboutisse pas, que les choses ne fonctionnent pas. Et là, on va rentrer maintenant dans une longue période de conflit idéologique, politique et aussi militaire. Parce que le diable va faire tout ce qui est possible, imaginable, pour détruire ce pays-là. Alors, il va essayer politiquement, en jouant sur la fibre nationaliste et puis humanitaire auprès des Nations Unies, en disant, ben, vous voyez, il y a un peuple, ce peuple s'appelle les Palestiniens, ils ont été dépossédés de leur terre, les Juifs les aiment pas, les Juifs pourchassent, les tuent, les Juifs les expulsent, j'en passe les meilleurs. En fait, problème, pas de cette nature-là. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça serait trop simple. Si c'était les gens du pays qui étaient spoliés, on pourrait s'entendre, retrouver des compromis. Mais comme les Arabes, ils ont créé une entité avec énormément d'étrangers qui n'avaient strictement rien à voir avec les habitants qui habitaient dans le pays avant que les Juifs y viennent, la nature du problème est totalement différente. Et donc, Israël ne peut pas satisfaire les désirs des Palestiniens en disant, mais c'est pas un problème, on va se partager les pays, vous allez rentrer sur des territoires pour pouvoir vous donner, et puis comme ça, on peut arriver à un compromis, on peut arriver à la paix. Ça serait à la limite possible et pensable. Si on avait conservé la somme des habitants qui ont quitté le pays au début du conflit, mais c'est plus du tout pensable à partir du moment où on agrandit la masse de ces personnes en y rajoutant un nombre impressionnant de personnes qui viennent de Jordanie, d'Égypte et de partout. Il faut quand même savoir que le leader de l'OLP, un palestinien, c'est Arafat, mais qu'Arafat, c'est un Égyptien, qui n'a jamais été un habitant, qui a vécu en Israël hein, avant, qui vivait sur ce territoire. C'est un produit rapporté qui est venu d'ailleurs. Nous sommes donc là, vraiment, dans un combat qui est d'une toute autre nature que ce qu'on peut voir sur la surface des choses. C'est-à-dire, la surface des choses, c'est des pays qui sont en conflit avec Israël, c'est une organisation qui a été créée de toutes pièces, qui est un produit factice, hein, une illusion, et mais derrière ça, il y a un puissant esprit qui s'oppose à l'Israël. Il y a une domination spirituelle très forte, une autorité spirituelle extrêmement puissante qui s'oppose à la création d'Israël, qui veut tout faire pour anéantir Israël. Pendant ce qu'on appela plus tard la guerre d'indépendance, les forces de défense d'Israël à peine formées, pauvrement équipées, repoussèrent les envahisseurs au cours de violents combats qui devaient durer 15 mois et coûtèrent la vie à plus de 6000 Israéliens, près de 1% de la population juive du pays à l'époque. Durant les premiers mois de 1949, des négociations directes menées sous les auspices de l'ONU entre Israël et chacun des pays agresseurs, à l'exception de l'Irak qui refusa de négocier avec Israël, conduisirent à des accords d'armistice reflétant la situation qui prévalait à la fin des combats. Ils ont essayé par la guerre, ils ont essayé politiquement, ils ont essayé de tous les moyens qui étaient possibles, ils ont jeté leur force dans la bataille, c'était une bataille qui fut extrêmement sanglante, et ils n'y sont pas arrivés. Finalement, des traités de paix ont été signés, des compromis ont été trouvés, et une espèce de statu quo va s'installer. Et les Palestiniens, des vrais, j'entends, hein, ceux qui habitaient dans le pays, qui sont partis parce que les Arabes leur ont dit de partir pendant la guerre, parce que ils vont faire le travail, ça va être extrêmement violent, et puis une fois que ce travail sera terminé et que la guerre est finie, ils pourront revenir, et bien ces gens-là, ce qu'ils ont perdu, ils l'ont définitivement perdu, ils l'ont perdu parce que les Arabes ont perdu la guerre, et qui ne veulent pas qu'un compromis soit trouvé. Ça restera toujours le prétexte qu'on met de côté pour avoir un point d'appui, pour aller à l'ONU, pour aller dans les nations du monde entier, pour dire, ben, voyez les Juifs, ce qu'ils ont fait, ils nous font la guerre, ils ont chassé des gens, et puis maintenant, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'il n'y aura jamais de véritable paix tant qu'on aura des gens qui ont été dépossédés de leurs terres. Mais, à l'origine du problème, eh ben, il y a les pays arabes eux-mêmes. S'ils n'avaient pas créé cette entité qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'OLP, et qui représente la Palestine, et si on avait laissé les choses en l'état, il y aurait eu une relation directe entre les Juifs et les habitants du pays, et petit à petit, une séparation se serait faite entre les deux, et puis chacun aurait vécu de son côté. Mais le fait qu'on a choisi l'option dure, qu'on a choisi l'option violente, celle de la guerre, et qu'on y a rajouté une couche encore avec une organisation factice qui était l'OLP, et bien les choses se sont envenimées, et on s'est arrivé à un point qui perdure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toujours encore un problème avec les Palestiniens. Aujourd'hui, on a toujours encore des conflits qui sont latents, notamment avec la Syrie, avec l'Irak, et puis encore pire avec l'Iran. Et on ne trouve pas de solution, parce qu'en fait, on ne veut pas trouver de solution. Ça arrange énormément les Arabes d'avoir un pays au milieu des pays arabes sur lesquels on peut focaliser les haines, sur lesquels on peut focaliser toutes les rancœurs. Parce que pendant que le monde arabe se décharge sur Israël, eh bien, il ne s'occupe pas de ses problèmes internes. Or, des problèmes internes, il y en a, parce qu'il n'y a pas une seule vraie démocratie dans tous les pays arabes. Partout, c'est soit l'armée, soit une dictature, soit ce qu'on veut, qui règne, et mais il n'y a pas de véritable liberté dans ces pays. Et pour éviter d'avoir trop de problèmes avec leur propre population, on se concentre sur Israël en disant « tous les problèmes dans les pays arabes viennent à cause d'Israël ». Alors que ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et une fois que le premier conflit, du moins que la toute première guerre, la guerre d'indépendance, s'achève, l'État d'Israël, petit à petit, il commence à se structurer et à prendre corps. Au départ, la plaine côtière, la Galilée et tout le Negev se trouvaient sous souveraineté israélienne, tandis que la Judée et la Samarie passaient sous contrôle jordanien et la bande de Gaza sous administration égyptienne. La ville de Jérusalem fut divisée, la Jordanie contrôlant la partie orientale, y compris la vieille ville, et Israël le secteur occidental. La guerre terminée, Israël consacra tous ses efforts à l'édification de l'État, pour lequel le peuple avait dû livrer un combat si long et si pénible. Les années d'édification de l'État d'Israël furent assombries par de graves problèmes sécuritaires. Les accords d'armistice signés en 1949 n'étaient pas parvenus à établir une paix permanente et se trouvaient constamment violés. À peine l'État créé, tout de suite les Arabes attaquent, la guerre se termine par leur défaite, les Arabes signent un traité de paix, mais la rancœur subsiste. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents. Eux, finalement, ce qu'ils veulent, c'est que les Juifs partent. Et malgré les traités de paix, malgré les accords qu'ils ont signés, tout le temps et en permanence, il se passe des accrochages, il se passe des conflits locaux. Ce n'est pas une véritable guerre, mais à tout bout de champ, tout le temps, sur les frontières, il y a des petits conflits locaux. Et on se rend bien compte que le feu couve sous la cendre. Et que la solution qui a été trouvée, c'est une solution bâtarde qui, de toute façon, ne sera pas définitive. Et effectivement, on va continuer comme ça pendant un bon laps de temps, avec des hauts et des bas, jusqu'à ce que, en 1967, ça reparte de plus belle. Le feu couvait depuis trop longtemps, les haines se sont exacerbées pendant toutes ces années, jusqu'à ce que, une fois de plus, la guerre éclate, mais cette fois, la guerre totale, de nouveau. L'espoir d'une nouvelle décennie de relative tranquillité en Israël fut déçu par la recrudescence d'attentats terroristes à partir des frontières égyptiennes et jordaniennes. La poursuite des tirs d'artillerie sur les localités agricoles de Galilée septentrionale et le réarmement massif des pays arabes voisins, lorsqu'en mai 67, l'Égypte effectua de grands mouvements de troupes dans les déserts du Sinaï et ordonna aux forces de l'ONU déployées depuis 1957 d'évacuer la péninsule du Sinaï en déclarant une nouvelle fois le blocus du détroit de Tiran et s'engagea dans une alliance militaire avec la Jordanie, Israël se trouva menacé sur tous les fronts par des armées arabes hostiles. Après la guerre d'indépendance, une espèce de statu quo s'était installée. Mais les Arabes, en permanence, par différentes manières, essayaient toujours de maintenir la pression sur Israël. Alors, une fois, un blocus dans un coin, un tir d'artillerie dans l'autre, une escarmouche ici, une guerre là-bas, enfin une guerre, un conflit local là-bas. Et ça, ça durait comme ça pendant un bon petit moment. Jusqu'au jour où ils se donnent les moyens, les Arabes, de reprendre la guerre avec lui donner une nouvelle dimension. Donc ils se réarment. Il essaye de mettre un blocus sur le pays, il y a de grands mouvements de troupes, et naturellement Israël regarde ça en se disant « oulala, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose ». Placé face à ces menaces de destruction, Israël invoqua son droit inhérent à l'autodéfense et lança le 5 juin 1967 un raid aérien préventif contre l'Égypte au sud, suivi par une contre-attaque de la Jordanie à l'est et contre les forces syriennes retranchées sur le plateau du Golan au nord. Au terme de 6 journées de combat, de nouvelles lignes de cessez-le-feu remplacèrent les précédentes, plaçant sous contrôle israélien la Judée, la Samarie, la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Il s'en suivit une période d'accalmie dans les localités septentrionales d'Israël, sans cesse pilonnées par les obus syriens. Le libre passage des bateaux israéliens, ou sous pavillon étranger en route pour Israël à travers les détroits de Tiran, la réunification de Jérusalem, divisée depuis 1949 entre Israël et la Jordanie. Donc là, changement brutal. 1967, le pays, brusquement, va voir son territoire considérablement s'agrandir. Et surtout, réunir les deux parties de Jérusalem. Les troupes israéliennes rentrent à Jérusalem, prennent la ville et annexent la ville. À partir de ce moment-là, la ville de Jérusalem va devenir la capitale d'Israël et lâcheront plus rien. Donc là, c'est vraiment un tournant dans les relations entre Israël et tous les pays du Moyen-Orient et au-delà de ça. pour le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, un temps s'achève. Le Seigneur a dit, tant les nations s'achèvera, quand Israël ne sera plus foulé par les nations. Et ça, ça se passe en 1967. À partir de ce moment-là, un changement profond, spirituellement parlant, va se produire. Une époque et une ère nouvelle va démarrer. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il va falloir à partir de maintenant consolider tout ça, et les conflits vont perdurer. On aurait pu se dire, vu la gigantesque défaite des Arabes, les choses auraient pu se stabiliser, on aurait pu trouver un compromis, et puis faire en sorte que plus jamais ça se reproduise. Mais la haine est tellement forte, les tensions sont si vives, qu'on n'arrive pas vraiment à s'entendre, et la paix n'est pas possible, pas encore. Une fois les combats achevés, il restait un grand défi diplomatique à relever. Traduire les atouts militaires d'Israël en une paix permanente fondée sous la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui préconisait la reconnaissance de la souveraineté des confins et de l'indépendance politique de tous les pays de la région et leur droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues et préservées de menaces et d'actes de belligérance. Donc on va s'employer à trouver la paix, mais cette paix va toujours fuir. Cette paix semblera toujours inaccessible. Les positions arabes, telles qu'elles furent formulées au sommet de Khartoum en août 1967, s'opposèrent énergiquement à tout traité de paix avec Israël et refusèrent d'entamer des pourparlers avec Israël. Dès septembre 1968, l'Égypte déclencha une guerre d'usure dont les hostilités sporadiques et statiques au départ. Le long des berges du canal de Suez dégénèrent rapidement en combats qui, pour être localisés, ne provoquèrent pas moins de lourdes pertes des deux côtés. Les hostilités prirent fin en 70 avec le début de négociations israélo-égyptiennes qui débouchèrent sur un nouveau cessez-le-feu le long du canal de Suez. Alors là, on se dit, en 1970, ben, ils ont compris, on s'est tiré dessus pendant des années, on s'est pilonné à coups de mortier et puis de canon, et ça de part et d'autre du canal de Suez, et au bout d'un moment, on se dit, bon ben, ça n'a pas de sens, on se calme, et on essaie de trouver une véritable paix, une paix qui soit durable. On aura 1970 à 1973, un calme relatif du côté du canal de Suez. Ces trois années de paix relative sur les frontières prirent fin le jour du Kippour de l'année 1973, le jour le plus sacré du calendrier hébraïque. Au moment où l'Égypte et la Syrie prirent d'assaut par surprise le territoire israélien, l'armée égyptienne franchit le canal de Suez et les troupes syriennes pénètrent sur le plateau du Golan. Au cours des trois semaines qui suivirent, Tsahal parvint à renverser le cours des hostilités et repoussa les assaillants à travers le canal de Suez et parcourut 32 km en direction de Damas. Deux années de pourparlers difficiles entre Israël, l'Égypte et la Syrie débouchèrent sur des accords de désengagement stipulant le retrait des forces israéliennes de certaines parties des territoires conquis pendant cette guerre. Nous avons donc quelque chose de nouveau qui vient de se passer. C'est que, sans prévenir, et en ayant agi de manière relativement habile, les Syriens et les Égyptiens se sont préparés à un nouveau conflit. Ils ont fait ça en douce, ils ont promis la paix, ils ont promis la sécurité, ils sont tenus à carreau, mais ce faisant, ils ont préparé leurs armées pour engager un combat au moment où Israël s'y attendait le moins. Donc, pendant la fête du Kippour, alors que les frontières étaient dégarnies, ils ont donc lancé l'assaut et sont rentrés dans le pays. Si l'Éternel n'avait pas agi, si le Seigneur n'avait pas été présent, eh bien, on peut pratiquement être certain que les choses se seraient très mal passées pour Israël ce jour-là, parce que rien n'aurait pu arrêter ces deux armées, l'armée syrienne et l'armée égyptienne, parce que les soldats israéliens étaient dans leur famille, et que quelques personnes qui étaient sur la frontière n'avaient absolument aucun moyen d'arrêter les troupes ennemies. Et si les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû se dérouler, c'est vraiment parce que le Seigneur l'a voulu. Par exemple, les Syriens, ils sont rentrés sur le plateau du Golan, ils sont restés sur le plateau du Golan, alors qu'ils auraient très bien pu poursuivre la route, parce que rien ne s'y opposait, ils n'avaient pas d'armée en face d'eux, ils auraient pu descendre dans la Galilée, envahir la Galilée, et absolument personne n'aurait pu leur résister, parce que l'armée n'était pas prête à ça, ne s'y attendait pas du tout. Et donc, les armées ennemies se sont stabilisées sur certaines positions, au lieu de poursuivre leur route à bride abattue, parce qu'ils se sont dit, les ennemis vont se regrouper et puis ils vont nous attendre, donc on va se maintenir sur certaines positions. Alors que ce n'est pas du tout le cas, les Israéliens n'étaient pas du tout prêts à riposter. Mais par contre, les armées ennemies, ce faisant, ont permis aux Juifs de se réorganiser. Donc, quand l'alerte générale a été décrétée, tous les réservistes, tous les militaires sont immédiatement allés rejoindre leur position. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, on a commencé à repousser les armées ennemies jusqu'à les détruire et puis trouver les positions antérieures et même aller bien au-delà. Comme d'habitude, à chaque guerre, les pays arabes se font totalement détruire et la surface du pays augmente. Et là, la guerre du Kippour, les choses se passent de nouveau exactement de la même manière. Donc, la coalition arabe est une fois de plus battue, les pays arabes sont humiliés, et puis une fois de plus se disent « mais c'est pas possible, cette armée est invincible, on n'arrive pas à les battre ». Et alors, ils vont imaginer quelque chose de nouveau, puisqu'on ne peut pas les battre militairement, on va essayer de les contraindre d'une autre manière. Il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître, il y a un plus qui va se surajouter à tout ça, c'est que de la guerre militaire, les Arabes vont, à partir de maintenant, à partir de la guerre du Kippour, rajouter un élément, une dimension politique et économique. Les pays du Golfe, quand ils se sont rendus compte que l'Égypte et la Syrie, une fois de plus, perdu la guerre, pour faire pression sur les États-Unis qui soutenaient activement Israël, ont fermé les vannes du pétrole, ont fermé l'approvisionnement en pétrole, ont coupé l'approvisionnement, et le prix du pétrole ont flambé. On appelait ça le premier choc pétrolier. Donc, la guerre du Kippour a eu pour conséquence une flambée du cours du pétrole, qui était le résultat d'une réaction des pays alliés, arabes, de la Ligue arabe. Je dis, puisqu'on ne peut pas le faire militairement, on ne va pas se laisser faire. Cette fois-ci, on va mettre la pression sur le monde entier. Et du coup, un conflit qui était un conflit local, à l'échelle des nations, Israël, ce qui s'était passé, c'est rien. C'est un tout petit pays de rien du tout. C'est comme l'Alsace, un peu plus grand que l'Alsace. Et d'un seul coup, à cause de ce petit pays, une onde de choc va secouer le monde entier. Ça va ébranler le monde entier. Parce que la réaction des pays arabes va précipiter le monde entier dans une récession énorme. Parce que les prix de l'énergie vont flamber. Le pétrole, pour l'économie mondiale, c'est comme le sang dans le corps humain. Si brusquement vous empêchez le cœur de battre, tout s'arrête. À partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau va se passer et qui va toucher la Terre entière. Il va y avoir la première grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire une crise économique majeure. On a été pendant 30 ans dans une économie florissante, parce que c'était une économie de reconstruction après la guerre, c'est une économie où l'argent coulait à flot, c'était une économie où tout se passait bien, on avait une croissance qui était forte, et d'un seul coup, après la guerre du Kippour, paf, ça s'arrête. L'économie est stoppée net sur place. Nous avons donc un impact, mais d'une dimension gigantesque, qui s'est fait dans le monde entier. En partant d'un tout petit pays, c'est la terre entière qui est secouée. Comme le disait le Seigneur, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. On touche à Jérusalem, on touche à la prunelle des yeux de Dieu. Nous sommes donc là, vraiment, une situation nouvelle, où le conflit, si on regarde ça de plus loin, on se rend tout de suite compte qu'on n'est pas là dans la nature des choses courantes. Il n'y a aucun conflit dans le monde ramené à cette échelle-là qui peut avoir une incidence aussi énorme, une incidence aussi gigantesque. Il y a eu toutes sortes de guerres. On a vu, hein, avec la décolonisation, que la guerre d'Indochine, plus tard la guerre du Vietnam, avec des moyens gigantesques qui étaient investis là-dedans, ça n'a pas eu cette répercussion-là. On a eu d'autres conflits, la guerre d'Algérie, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des conflits locaux avec des moyens parfois énormes qui ont été engagés, mais ça n'a jamais eu cette dimension-là. Jamais, à aucun moment, les répercussions étaient planétaires, jamais, à aucun moment, les répercussions ont eu une nature aussi développée et aussi gigantesque. Là, c'est carrément le monde entier qui se trouve affecté par ça. Nous avons donc là vraiment quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, et on voit vraiment que le Seigneur veut que les choses changent, que le Seigneur veut que le monde comprenne qu'à partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle ère, nous entrons dans une nouvelle dimension, et c'est à nous aussi de prendre ces choses-là en considération, d'ouvrir les yeux, de regarder, de scruter l'histoire, ce qui s'y passe, de le lire, de le mettre en superposition avec les déclarations du Seigneur, avec les prophéties du Seigneur, avec tout ce qu'il nous annonce. Le Seigneur nous annonce qu'un jour Israël renaîtra, c'est-à-dire que le figuier refleurira, mais aussi d'autres nations. Il dit aussi que ce sera des temps pénibles, des temps de souffrance, comme le temps d'une femme qui va accoucher, avec des contractions, avec des moments pénibles. Eh bien, si on observe notre monde, si on observe les choses, comment elles se passent, on se rend compte que, de manière concomitante, avec l'apparition d'Israël, avec les guerres qui s'ensuivent, autour des pays s'émancipent, mais il y a aussi des soubresauts qui sont des soubresauts qui prennent une dimension planétaire. Avant, les choses étaient localisées. À partir de maintenant, à partir de ce moment-là, c'est le monde entier qui est concerné. Les guerres deviennent mondiales, les crises économiques deviennent mondiales. Ce n'est plus des choses morcelées, ce n'est plus des choses qui sont séparées les unes des autres. Ce n'est pas quelque chose qui se passe en Amérique ou quelque chose qui se passe en URSS ou en Chine, dans les grands blocs. Non, là, la dimension est planétaire. Les choses prennent un élan nouveau, prennent une dimension nouvelle, et ça c'est parce que le Seigneur agit. C'est parce que la puissance de Dieu est là, elle est présente dans son pays, mais pas seulement dans son pays, elle est aussi présente sur l'ensemble du monde. Le Seigneur veut qu'on prenne en considération son œuvre en Israël pour nous faire comprendre que derrière, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se mettre en place. Que le Seigneur prépare le monde à quelque chose de nouveau. Que une nouvelle naissance, qu'un monde nouveau est en gestation qui se prépare à venir. Les choses anciennes vont disparaître, mais on saura qu'on s'approche de ce moment où Jésus-Christ va revenir pour créer un nouveau monde, une nouvelle terre, quand on verra progressivement les problèmes, quand on verra les catastrophes, quand on verra les soubresauts sur la planète allant en grandissant, augmentant en intensité et en fréquence, mais dans une dimension planétaire. Ce n'est plus uniquement des choses localisées, mais ça va être des choses toujours plus grandes et qui auront un impact toujours plus important, mais sur le monde entier. Donc là, les crises qui viennent maintenant et qui vont se succéder, comme les crises économiques, les récessions, le chômage, le poids de la dette, toutes ces choses-là, ça ne va pas toucher uniquement un pays, mais ça va toucher tous les pays. C'est toutes les nations vont être frappées de manière plus ou moins identique parce que nous entrons maintenant dans une nouvelle logique, parce que nous entrons maintenant dans un monde nouveau. Nous sommes là vraiment dans une ère neuve, une voie nouvelle qui est totalement et complètement différente de ce que nos pères ont connu. Ce que nous vivons actuellement, ce que notre génération vit, c'est pas du tout ce que les générations précédentes ont vécu. Nous avons grandi en côtoyant, en quelque sorte, Israël. Nous avons vécu toutes ces choses-là. Nous avons participé à toutes ces choses-là. Et nous nous rendons bien compte que notre génération, ce qu'elle vit, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'a connu nos parents. Nos parents ont connu une période de prospérité. Ils ont connu un monde qui allait toujours de l'avant, où les choses se construisaient, où les choses s'amélioraient. Mais on peut dire que notre génération, ce qu'elle connaît, c'est des problèmes nouveaux, qui sont liés à la pollution, par exemple, la destruction des espèces, l'agrandissement des déserts, l'agrandissement ou l'accroissement de la population, mais qui se concentrent toujours plus dans les villes avec ce que ça apporte comme problème et comme désordre, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées, les maladies, et à ça se rajoutent encore des catastrophes naturelles qui maintenant prennent des dimensions toujours plus grandes. Et tout ça mis ensemble nous montre que notre monde, cette terre que nous connaissons, souffre à des douleurs qui en intensité progressivement deviennent toujours plus fortes. Et ça, ça doit nous rendre attentifs. Tout ça, ça doit être présent dans notre cœur et nous devons nous dire, si nous pouvons vivre ces choses-là, si nous voyons ces choses-là, si nous comprenons que ces choses viennent de Dieu, que le Seigneur l'a annoncé, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. C'est que le Seigneur est à la porte et que pour nous, eh bien, la délivrance approche. Nous avons un monde qui se transforme. Nous le voyons tous les jours autour de nous. Nous voyons que les choses évoluent, elles ne sont pas statiques, elles ne restent pas en place. Israël, c'est un problème qui est récurrent, qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'on en parle dans les journaux. Ça n'a jamais arrêté. Depuis que cet État existe, c'est un sujet de préoccupation pour les nations. C'est un sujet de préoccupation pour le monde entier. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on sent qu'il y aura toujours des tiraillements, qu'il y aura toujours des tensions et qu'on n'arrivera jamais à trouver la paix purement et simplement dans le monde. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que pour les pays arabes, la volonté de trouver une solution, la volonté de trouver un accord avec Israël, c'est une illusion. Les pays arabes, ce qu'ils veulent, c'est purement et simplement que les Juifs s'en aillent, que Jérusalem revienne de nouveau au monde arabe, que ce problème qu'ont apporté les Occidentaux dans les pays arabes soit évacué, soit effacé. Il suffit d'écouter un petit peu ce que le président iranien a dit. Lui, ce qu'il veut, c'est faire disparaître ce pays. Ça ne veut pas dire tuer forcément les Juifs, mais ça veut simplement revenir à la situation qui était celle qui existait avant 1948, c'est-à-dire avant qu'on crée l'État d'Israël. Pour lui, pour les Arabes en général, c'est nous les Occidentaux qui avons fabriqué ce problème. C'est à nous de nous charger de toutes ces choses-là, afin de trouver une solution, et pour eux, la solution, ça sera purement et simplement que l'État d'Israël cesse d'exister. On a fabriqué l'OLP, on a fabriqué le problème palestinien pour maintenir la pression sur ce pays, mais même si on redécoupe Israël tel qu'elle est aujourd'hui pour en faire une partition, pour le partager entre les Palestiniens et entre les Israéliens, ça ne résoudra rien. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, ils viendront avec d'autres choses, ils viendront avec d'autres problèmes, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, nous sommes maintenant dans une dynamique, nous sommes maintenant dans une marche en avant, et quoi qu'on fasse, de toute façon, les choses iront en s'exacerbant. Et elles iront en s'exacerbant parce qu'à quelque part, la pression des nations se fera toujours plus forte sur Israël. Toujours plus, Israël deviendra une pierre pesante. Et d'un petit caillou de départ, ça va devenir un gigantesque rocher. Donc, pendant longtemps, ça a été les Arabes qui ont fait pression pour essayer de se débarrasser d'Israël. Mais maintenant, ça va même plus loin que ça, puisque maintenant, c'est les Européens, c'est les Américains qui demandent aux Juifs d'arrêter de construire des maisons dans un territoire qu'ils disent occupé, trouver des compromis avec les Arabes, de faire en sorte qu'on s'entende, de trouver la paix à tout prix, de restituer la moitié de la ville de Jérusalem. Donc, nous sommes dans une logique de retour en arrière. Donc, le diable, il travaille, le diable, il fait en sorte que, diplomatiquement, aujourd'hui, on arrive à des solutions qui sont des solutions qui l'arrangent lui. C'est-à-dire, arriver à une partition de Jérusalem, une fois que ça s'est fait, pourquoi pas continuer par la suite, et purement et simplement enlever la souveraineté de cette ville pour la donner à l'ONU, faire en sorte que comme ça il n'y aura plus de problème, puisque ça n'appartiendra plus aux Juifs ni aux Arabes, ça sera sous l'administration de l'ONU, on redécoupe les frontières, on restitue le Golan, on restitue ceci, finalement, qu'est-ce qui va rester d'Israël? Si on commence à rentrer dans cette logique, si on va au bout de ce que demandent les nations aujourd'hui, c'est-à-dire rendre Jérusalem, rendre les territoires, rendre ceci, rendre cela, ce qui a permis à ce pays d'exister, cette dynamique qui a fait en sorte que Israël soit aujourd'hui ce qu'il est devenu, cette dynamique est brisée. Cette logique n'a plus de sens. Et surtout, la parole de l'Éternel n'a plus de contenu. Si le Seigneur dit « je vous ramènerai dans votre pays, je vous restituerai votre capitale, je réunirai de nouveau Jérusalem, et Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations. » Si on revient en arrière sur toutes ces choses-là, si on renvoie les Juifs de nouveau au milieu des nations, si on prend la ville de Jérusalem pour la mettre sous administration étrangère, en fait, on revient en arrière sur les textes, on revient en arrière sur la parole de l'Éternel. C'est comme si ce que le Seigneur avait dit, finalement, c'était mensonger, c'était trompeur, ça n'existe pas, c'est pas juste. Et donc, qu'on accouchera de rien, que c'était pas les douleurs de l'enfantement. Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est faux. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'était un épiphénomène comme ça dans l'histoire. Les Juifs sont revenus dans leur pays, mais finalement, on a réussi à en faire un petit territoire avec trois fois rien de plus, sans substance, sans contenu. Ils étaient quelques millions à un moment donné, et puis quand on leur a pris leur capitale, quand on leur a pris les territoires... petit à petit, ils sont repartis, à part quelques fanatiques qui sont restés, tout le reste du peuple est retourné de nouveau d'où il est venu. Tout ce que vous avez annoncé au travers des prophéties, au travers de ce que le Seigneur a dit, ça ne concernait pas ce temps-là, puis même peut-être c'était tout simplement faux. On se rend compte de l'enjeu des paroles du Seigneur. C'est le Seigneur qui prononce une parole, le Seigneur il dit une chose, cette chose s'accomplit, mais c'est aussi à nous de l'accompagner, c'est à nous d'avoir la foi et de croire que ces choses-là sont vraies. Le Seigneur a dit une chose, il l'accomplit et il ira jusqu'au bout. C'est pas des paroles comme ça en l'air, et les hommes vont essayer de trouver des solutions, et les hommes vont essayer de parvenir à trouver un consensus, à contourner la parole de l'Éternel pour la rendre caduque, pour la rendre creuse et vide de tout sens. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a eu le premier choc pétrolier. Mais après, il y en a eu d'autres. Après le premier choc pétrolier, c'était la crise iranienne. La crise iranienne a apporté le deuxième choc pétrolier. Donc une deuxième crise économique planétaire. Alors on aurait pu se dire, bon, ça suffit maintenant, on va finir par trouver des solutions. Ben non, ça a continué. Il y a eu un troisième choc pétrolier. Là, il n'y a pas tellement longtemps, à partir de 2006, c'est reparti pour un tour. Les prix du pétrole, ils ont flambé, et puis rebelote de nouvelles crises, mais crises amplifiées. Parce que cette fois, ce n'était pas que le pétrole, c'était la crise de la dette, c'était la crise des subprimes, c'était la crise systémique au niveau bancaire. C'est-à-dire, le Seigneur, on a encore, paf, rajouté une couche. On avait un problème qui venait d'Israël, et qui s'est étendu au monde entier, mais les choses continuent maintenant, c'est-à-dire... le monde a commencé à trouver un certain rythme dans le cycle des contractions, dans le cycle des souffrances qui annonce un monde nouveau, et ça ne s'arrête plus. Si à la base c'était Israël, maintenant c'est vraiment une dynamique qui se met en place et qui va de l'avant. C'est vraiment un monde nouveau qui doit émerger. Cette fois-ci, nous n'avons plus besoin d'Israël comme indicateur pour nous dire, Jérusalem n'est plus foulée par le temps des nations est accompli. Ça, c'est fait, c'est déjà acté, ça, il faut croire que c'est quelque chose qui est déjà accompli. Le temps des nations, c'est terminé. Maintenant, nous sommes dans une dynamique qui est tout à fait nouvelle, qui s'est mise en place et que le Seigneur entretient. Donc, le monde se transforme, le monde va se transformer progressivement, En ayant des douleurs, en ayant des crises, qui progressivement vont amener à un temps nouveau, vont amener à une ère nouvelle. Ça va être des crises économiques, ça va être des crises sociales, ça va être des conflits, ça va aussi être des catastrophes naturelles. On se rend bien compte, il suffit de regarder les actualités, pour se rendre compte qu'il y a toujours des phénomènes un peu bizarres qui arrivent. Maintenant, on a le volcan avec le nuage... Avant, c'était une sécheresse dans un coin, c'était des Jeux Olympiques sous la pluie parce qu'il n'y a pas de neige en plein hiver. D'un autre côté, on fait 100 km et puis on se rend compte que la capitale américaine est sous 2 mètres de neige. On fait un peu quelques centaines de kilomètres et puis on va arriver à Rio de Janeiro avec crève de chaud. Enfin bon, c'est tout et n'importe quoi. On est vraiment dans un monde qui semble être devenu fou, où tout n'a plus de constance. On n'est plus dans quelque chose de linéaire, de tranquille, où on peut se dire, ben voilà, se menant sur une période de stabilité, où il ne se passe pas grand-chose, on va pouvoir consolider, là on est tranquille, et puis on va pouvoir bâtir là-dessus. Les nations vont pouvoir s'organiser, les nations vont pouvoir trouver des consensus, et puis tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, c'est pas ça. On sent que c'est pas ça. Parce qu'on sent que, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, un problème semble en engendrer un autre. Problème du moment, hein, crise grecque. On vient à peine de sortir des subprimes avec des bandades au milieu des banques où il a fallu injecter des téra-dollars dans le circuit économique pour sauver le système. Et on s'est dit, bon, ça c'est fait, maintenant ben, tranquille, la bourse remonte, l'économie redémarre doucement, paf. C'est la crise grecque qui nous rappelle que les déficits sont passés des banques aujourd'hui aux États, et les États aujourd'hui sont dans la même situation que les banques hier. Donc il va falloir renflouer les États. Ça commence à faire beaucoup d'argent à trouver un peu partout. Hein. Donc, il a fallu trouver des téra-dollars pour sauver les banques, et accessoirement pour continuer d'enrichir les voleurs qui y travaillent. Et maintenant, brusquement, on fait des découvertes. Ah, tiens, les caisses de l'État sont vides. Non seulement elles sont vides, mais en plus, elles ont accumulé une montagne de dettes. Montagne de dettes qui a commencé, bizarrement, quand ? Dans les années 70. C'est-à-dire tout de suite après la guerre du Kippour. Premier choc pétrolier, première crise économique. À partir de ce moment-là, la dynamique de croissance s'est stoppée et les États, pour compenser la perte de croissance, ont commencé à s'endetter. Et la chose s'amplifie. Globalement dire que des années 70 aux années 2000, la perte de croissance a été plus ou moins linéaire et donc petit à petit, les États ont accumulé des dettes. Mais ça, de manière assez régulière, sans que ce soit trop catastrophique. Mais les choses se passent actuellement de manière totalement différente. C'est, depuis quelques années, la courbe s'est infléchie, et pas dans le bon sens, puisque les dettes qui s'accumulaient bon an, mal an, à raison de quelques pourcents tous les ans, brusquement, aujourd'hui, connaissent une augmentation qui sont des augmentations de chiffres. Là où on se disait il nous a fallu 30 ans pour accumuler 60% de l'équivalent du PIB en dette, brusquement on se rend compte qu'on passe de 70% à 80% en l'espace de 2 ans. On peut dire, si ça continue comme ça, dans 3-4 ans, on aura la dette aura augmenté de 50%, alors qu'il a fallu 30 ans avant pour y arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe actuellement. Il y a un phénomène nouveau qui s'est mis en place, une dynamique nouvelle où on est en train de secouer le cocotier. On peut dire, là, les contractions en ce moment sont relativement fortes. Là, vraiment, ça prend une dimension nouvelle. Il y a des millions de gens qui perdent leur job et puis leur maison aux États-Unis. On entend qu'il y a des États qui, tout simplement, n'y arrivent plus. Donc, il se passe quelque chose en ce moment. Là, on peut vraiment dire qu'on est en pleine phase de contraction, que les douleurs sont exacerbées, et puis que les choses ne sont pas finies, que les choses ne sont pas terminées. On aurait pu se dire, à un moment donné, on a un moment de creux, on a un moment de nouveau de tranquillité, mais ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment un phénomène de douleur, un phénomène de secousse, un phénomène difficile qui simplement nous rafraîchit la mémoire en nous disant que le Seigneur a dit qu'on va accoucher d'un monde nouveau, on va accoucher de quelque chose de neuf. Et qu'il ne faut surtout pas vous imaginer que les choses vont aller en s'améliorant. Il y aura entre deux contractions de nouveau une période calme, tranquille, tranquillité, mais suivra derrière quelque chose de beaucoup plus difficile et quelque chose de beaucoup plus dur. Donc, on a eu une première phase relativement longue, depuis la guerre du Kippour jusqu'à l'an 2000, grosso modo, on peut dire, on a eu une suite de contractions qui étaient assez mesurées. Et en même temps, c'est poursuivi le phénomène de libération des nations, puisqu'on a vu qu'il y avait les grands empires coloniaux qui ont explosé, mais les choses ne sont pas arrêtées, ça a continué. Il restait encore tous les pays satellites de l'URSS, par exemple, qui, en 1990, ont trouvé leur liberté. Et ça, à cause de quoi ? À cause de la crise économique. Cette fois, ce n'était pas la guerre où ce n'était pas une lutte d'indépendance, ou parce que les gens se sont révoltés, mais c'est parce que la crise économique qui a été engendrée dans les années 70 a complètement ruiné la Russie, qui, à un moment donné, a commencé à relâcher sa pression sur les pays satellites. Et lorsque la Pologne, la Hongrie et tous ces pays se sont rendus compte que la volonté n'était plus là pour les Russes de se maintenir physiquement dans ces pays, de maintenir des armées, de maintenir leur autorité sur ces pays, ils ont réclamé leur indépendance, ils ont réclamé leur liberté. Très rapidement, ils l'ont obtenue. Donc, on se rend compte qu'on est toujours encore dans la logique de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on a le figuier, derrière le figuier, les autres arbres. Ça se poursuit, ça continue, c'est toujours encore comme ça. Le gros a été fait tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, ça continue après dans les années 90, et on se rend compte que ça continue encore aujourd'hui. Il y a toujours encore des pays aujourd'hui qui, petit à petit, arrivent à leur indépendance, arrivent à leur autonomie. C'est un processus qui se continue. Le gros a déjà été fait, mais toujours encore, à droite, à gauche, certains pays qui, petit à petit, réclament et obtiennent leur indépendance. Ce sont des entités, ce sont des peuples toujours plus petits, hein, ce sont des choses qui n'ont qui plus la dimension de ce qu'on a connu, c'est plus planétaire, aujourd'hui c'est plus localisé, mais ça continue, l'émiettement continue, le processus continue. Et exactement comme ce processus y continue, eh ben, chez nous ça continue aussi. Le monde continue dans sa dynamique, continue dans sa logique. C'est-à-dire la parole de Dieu ira à son terme. Ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Même si le diable il fait tout ce qui est possible et imaginable pour que ça ne se fasse pas. Son rêve, ça serait de faire disparaître Israël. Son rêve, ça serait de mettre le grappin sur Jérusalem. Et il sait pertinemment que s'il peut faire ça, eh bien que ça arrête tout, tout le processus s'arrête. C'est-à-dire, on ne peut pas faire naître un monde nouveau si la parole de Dieu est prise en défaut. Donc, si Seigneur il dit, les choses seront ainsi, parce que je l'ai décrété, parce que je l'ai voulu, quand vous verrez le figuier, vous verrez les autres nations, quand un moment donné viendra où il y aura des douleurs de l'enfantement, si tout ça fonctionne ensemble, tout ça marche ensemble, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté divine. C'est l'Éternel qui le veut ainsi. Donc c'est à nous, chrétiens, de vivre avec ça dans notre cœur, de nous l'accaparer, de nous en emparer, de le faire nôtre. Tout le monde entier qui appartient au diable fera tout pour que ça ne se passe pas. Il trouvera tous les moyens pour essayer de contrer ça. Aux crises économiques, ils vont essayer de trouver des solutions économiques. Aux conflits, ils vont essayer de trouver des solutions politiques. Mais derrière ça, de manière récurrente, ça va revenir. Chaque fois, ça va revenir, et chaque fois, ça va être plus fort. On injecte des sommes folles pour essayer de résoudre un problème économique, et paf, derrière, il y en a un nouveau qui apparaît, et qui est encore pire que le premier. Il y a des conflits qui s'éteignent dans un coin, et hop là, ça repart de l'autre. On essaye de résoudre un problème social à quelque part, et ça repart de l'autre. On se rend compte que maintenant, c'est pratiquement... Si on regarde simplement le contexte social, mais c'est tous azimuts maintenant. Il y avait un temps où c'était une fois les routiers, où c'était une fois ceci. Maintenant, c'est les paysans en permanence, c'est les compagnies aériennes en permanence, c'est l'industrie en permanence, c'est les fonctionnaires en permanence. Les conflits maintenant sont non-stop, et surtout, ils deviennent toujours plus durs. Et une époque où on n'entendait jamais parler de séquestration de patrons. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Et si ça ne suffit pas, ben on menace de faire sauter l'usine, de balancer toute la production dans la flotte. C'est des choses qu'on n'a plus connues depuis longtemps. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un durcissement aussi par rapport à ça. L'inflation qu'on pensait juguler, qu'on se disait, ben voilà, on a résolu le problème, on a limité les salaires et toutes ces choses-là, donc c'est derrière nous, paf ! Gaz 10%, électricité 4%, et ceci qui ont eu ainsi de suite. Donc, voilà, on est de nouveau devant de nouveaux problèmes. Donc, s'imaginer qu'on peut passer sur la parole de Dieu, qu'on peut effacer ça, le balayer d'un revers de main en disant, ben voilà, ces choses auraient pu être, mais finalement elles ne sont pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le Seigneur a voulu que ce soit comme ça, le Seigneur a voulu qu'Israël existe. Les pays arabes ont tout fait pour essayer de se débarrasser de ce pays, ça n'a pas fonctionné. Après ça, ils ont continué avec les guerres du pétrole, ça n'a toujours pas fonctionné. Le Seigneur a dit qu'en même temps, de manière concomitante, eh bien, un certain nombre de nations trouveront leur liberté. Ça a été le cas. Le Seigneur a aussi dit qu'il y aurait des douleurs. On a connu les grands nationalismes, hein. On a connu les guerres mondiales, les guerres d'indépendance. Il y a eu des conflits extrêmement durs. Toutes ces choses, on les a pris dans la figure. Toutes ces choses-là, on les a vécues. Les dimensions des problèmes aujourd'hui sont devenues planétaires. C'est quelque chose qui doit se gérer de manière globale. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, c'est au niveau global. Quand on parle de crise économique, c'est au niveau global. Aujourd'hui, tout doit être fait au niveau global. Donc on se rend bien compte, c'est la planète tout entière qui est concernée, cette planète tout entière qui aujourd'hui a pris un élan nouveau, a pris une direction nouvelle. On ne parle plus chacun dans son coin. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui que d'agir de concert. On le voit avec la Grèce. Hein. La Grèce, par rebonds successifs, ça part d'un pays, ça touche l'Europe, et de l'Europe, ça touche le monde entier. Donc on est extrêmement liés les uns aux autres. Et même un tout petit pays, aujourd'hui, ça peut avoir des répercussions gigantesques. Restons attentifs à ça. Restons attentifs au fait que cette dynamique qui nous pousse vers un monde nouveau, qui nous pousse vers la venue de Jésus-Christ, s'accomplira dans le sens les paroles prophétiques de l'Éternel, de notre Seigneur. Le Seigneur a dit que ça va devenir toujours plus dur, le Seigneur a dit que ça va être toujours plus douloureux. Mais nous n'imaginons pas que ça va être autrement. Ça va être comme ça, parce que le Seigneur a décrété que ça serait ainsi. Pour Israël, les choses ne s'arrangeront pas. Jérusalem restera Jérusalem. Le monde est ce qu'il est, et plus on va avancer dans le temps, et plus les choses vont être douloureuses, et plus les choses vont être difficiles. Nous n'avons pas à lutter contre ces choses-là. Nous n'avons pas non plus à les subir. Pourquoi ? Mais parce que si nous restons proches du Seigneur, nous devenons des acteurs, nous rentrons nous-mêmes dans la prophétie. Si nous sommes de tout cœur avec Israël, nous participons à sa gloire et nous participons à sa bénédiction. Alors, si nous restons près du Seigneur, tous ces mots qui touchent le monde ne nous concernent pas. Pourquoi ? Mais parce que ce qui va naître après, ce qui va paraître, ce qui sera le fruit de cet enfantement du monde, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui apparaîtrons en gloire. Donc, si nous nous inscrivons dans la prophétie, si nous avons cette espérance en nous, si nous croyons que le Seigneur nous garde et nous porte à travers ces temps-là, nous participons à l'œuvre commune de Christ. Nous participons à l'œuvre du Seigneur. C'est nous qui sommes les acteurs, finalement, de ce monde nouveau qui se crée. Pourquoi ? Parce que c'est pour nous qu'il est préparé. Ce monde qui se transforme, ce monde qui se meurt d'un côté, mais qui prépare une nouvelle naissance derrière tout cela, c'est pour notre gloire. C'est parce que Christ va venir nous chercher pour régner sur ce monde nouveau. Donc nous avons tout à espérer, nous avons tout à nous réjouir de toutes ces choses-là. Si nous voyons que les choses vont plus mal, c'est pour nous qu'elles vont plus mal. C'est pas contre nous, c'est pas pour nous éprouver, c'est pas pour nous faire du mal, ou c'est pas pour nous précipiter dans la misère, ou nous précipiter dans l'épreuve. Mais au contraire, c'est pour préparer le terrain de notre gloire future. Donc nous avons tout à nous réjouir, nous avons tout à espérer de toutes ces choses-là. Et si nous sommes dans cet état d'esprit, si nous sommes dans cette perspective, si nous sommes dans un état d'esprit constructif et qui reste accroché à la pensée du Seigneur, nous serons alors dans la joie, nous serons dans le contentement, et toutes ces choses-là n'aura aucun effet, ne pourront en rien nous attrister, ne pourront en rien être contraires à l'édification de notre vie spirituelle. Voilà. On a vu le contexte des douleurs de l'enfantement, on a vu le contexte du fleurissement du figuier, et puis de tout ce que ça apporte, et on se rend compte que ces deux choses fonctionnent de concert, que le Seigneur a apporté des paraboles, a apporté des comparaisons, a apporté des prophéties, que nous les voyons aujourd'hui s'accomplir, et devons-nous en réjouir. Nous en réjouir parce que, effectivement, concrètement, les choses se passent comme il l'a dit. Et si elle se passe comme elle l'a dit, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elle n'aille pas jusqu'à leur terme. C'est dans cette ferme espérance que je me demande de vous tenir et de croire que vraiment tout ce qui se passe autour de nous, c'est quelque chose de positif. On a vu que la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde les choses uniquement dans le petit bout de la lorgnette, parce que c'était une catastrophe absolument gigantesque, notamment pour les juifs. Mais quand on voit ce que ça a apporté derrière cette catastrophe, derrière cet anéantissement et cet embrasement général, est née une nouvelle nation. Et ça, ça doit nous enseigner. C'est-à-dire la même chose va arriver au monde, mais derrière ça, un monde nouveau va apparaître. Cette fois-ci, ce ne sera pas un pays, mais ce sera la terre entière qui passera sous la domination de Christ. Voilà, tu as achevé le message ces temps-là. Mon Dieu, puisses-tu parachever ton œuvre, corriger les imperfections et faire rentrer ces paroles dans le cœur de ceux qui sont destinés. Oh, Jésus, l'homme n'est rien, mais ton esprit est tout. Puisses-tu, mon Dieu, donner à chacun sa mesure de foi, de compréhension et de lumière, afin qu'il puisse croire.